Bonsoir, ouvrons le temps du débat consacré aujourd'hui au patriotisme républicain. Patriotisme républicain, le concept défendu depuis quelques mois par Emmanuel Macron, a une nouvelle fois irrigué le discours prononcé par le président de la République hier au Panthéon. L'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de la Troisième République avait été choisie, de manière assez inédite il faut le dire, pour tenir un grand discours sur la citoyenneté et sur la vision de la République qu'entendait défendre désormais le chef de l'État. La commémoration a été doublée d'une cérémonie de naturalisation et Emmanuel Macron s'est plusieurs fois adressé à Matthew, Noura, Patricia, Catherine et Rana qui devenaient français pour rappeler que la citoyenneté française ouvrait un certain nombre de droits mais aussi de devoirs. Depuis quelques années, la République est redevenue un objet du débat politique, non pas qu'elle soit contestée comme en 1870 par les bonapartistes ou les monarchistes, mais dans un affrontement où celles et ceux qui en seraient les dépositaires les plus légitimes s'affrontent à ses défenseurs les plus purs. Il y a bien toutefois une menace de remise en cause, alerte Emmanuel Macron, qui a annoncé pour l'automne une loi contre le séparatisme dont l'élaboration est confiée conjointement au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et à sa ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa. En ligne de mire, les atteintes à la laïcité, mais aussi à ce qui constituerait un esprit bien français, une liberté de railler et de moquer, alors que s'ouvrait cette semaine le procès des attentats de janvier 2015. République, faut-il toujours réinventer la citoyenneté, c'est la question du temps du débat ce samedi, à écouter en direct et quand vous le désirez, sur franceculture.fr.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Français, le peuple a dévancé la chambre qui hésitait. Pour sauver la patrie en danger, il a demandé la République. Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril. La République a vaincu l'invasion en 1792. La République est proclamée. La Révolution est faite au nom du droit, du salut public. Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée. Demain, vous seriez avec l'armée, les vengeurs de la patrie. Hôtel de Ville de Paris, le 4 septembre 1870. Signé Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Pierre-Frédéric Dorian, Jules Favre, Jules Ferry, Guillaume Ampérou, Léon Gambetta, Louis-Antoine Garnier-Pagès, Joseph-Pierre Magnin, Francisque Ordinaire, Pierre-Albert Tachard, Eugène Paletin, Ernest Picard et Jules Simon.
Les mots de Léon Gambetta, le 4 septembre 1870, lus donc par une collégienne hier au Panthéon. Bonsoir Didier Lesky.
Bonsoir.
Vous êtes haut fonctionnaire, président de l'Institut européen en sciences des religions de l'école pratique des hautes études. Vous êtes aussi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il sera certainement question d'intégration ce soir. Et vous avez coécrit en 2016 avec Régis Debray, La laïcité au quotidien. Ça a été publié aux éditions Gallimard. Ici en studio à Paris avec vous, Saber Mansouri. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, mais aussi historien, spécialiste de la Grèce antique et essayiste. Vous avez publié en janvier dernier La France est à refaire, histoire d'une Renaissance qui vient. C'est aux éditions Passé Composé, mais vous publiez aussi en cette rentrée littéraire, je le signale, 7 morts audacieux et un poète assis aux éditions Elisade. Et j'ai cru comprendre qu'il était aussi question un petit peu de République. Et nous sommes aussi en duplex depuis Lyon. J'en profite pour remercier sur place les équipes à Lyon. Chloé Gaborio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, spécialiste de la question républicaine, maîtresse de conférences en sciences politiques à Lyon et directrice de la revue Mots, les langages du politique. Alors Chloé Gaborio, une question à vous tout d'abord, qui avez étudié, je crois, pendant notamment votre travail de thèse, ce moment de la fin du 19e siècle, d'établissement de la Troisième République et de la création d'une citoyenneté républicaine à ce moment-là. Commencez peut-être par vous êtes demandé ce que vous pensez de ce choix de célébrer la date du 4 septembre. 1870, qui n'est pas une date consensuelle, qui n'est pas une date qu'on a l'habitude de commémorer. Je crois même que c'est la première fois, véritablement, qu'un président de la République commémore cette date du 4 septembre.
C'est vrai que c'est assez étonnant.
Surtout quand on appelle cet événement la naissance de la République, puisque elle s'appelle quand même la Troisième République. Donc en fait, il y en a eu deux précédemment. Et donc on se serait peut-être attendu, en entendant parler de la naissance de la République, de revenir à la première, à 1792. Et le fait même que j'évoque cette première République en plein moment révolutionnaire qui va être... d'une certaine manière débordée par la terreur, on voit bien, j'imagine hein, que le choix est du coup signifiant. On ne choisit pas la Première République, on choisit la Troisième.
Pas plus que la Deuxième de 1848.
Pas plus que la Deuxième, on choisit la Troisième, qui apparaît sans doute au président de la République plus modéré, plus propre... À représenter ses propres valeurs.
Est-ce que c'est pas aussi cette Troisième République et les débats qui ont accompagné le fondement de cette Troisième République, parce que c'est peut-être des débats qui sont plus proches de ce qu'on a aujourd'hui, notamment je pense à la question de la laïcité et évidemment la question de la citoyenneté, Claude Gaboriau.
Je ne suis pas sûre du tout. Je pense que vraiment la citoyenneté, elle se construit pour les républicains, la conception de la citoyenneté, elle se construit tout au long du 19e siècle. Et de façon très conflictuelle avec des républicains, et donc qui chacun rêve de républiques différentes et de citoyenneté différente. Et ce long dialogue, souvent conflictuel, entre républicains se poursuit sous la Troisième République, avec effectivement une situation alors, qui est peut-être plus proche, mais je crois vraiment qu'il faut se garder de trop comparer les situations. Hein. On est dans une société qui est vraiment très différente aujourd'hui.
Certainement, Chloé Gaboriau. Didier Lesky, ce choix de commémorer le 4 septembre 1870, qui arrive finalement très peu de temps après le 14 juillet, qui est traditionnellement ce moment où on fête la République, a été expliqué notamment du côté de l'Élysée par la nécessité de réaffirmer, de redonner une vision de la République. Parce que la République, a dit le président Emmanuel Macron, est une conquête perpétuelle. Comment vous avez perçu ce choix finalement inédit de célébrer le 4 septembre 1870 ?
Écoutez, moi je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais choix, mais la particularité, disons, de la Troisième République, en particulier en matière de laïcité, puisque c'est un des sujets qu'on retrouvait dans le discours du président de la République, c'est qu'on va avoir ce qu'on va appeler les grandes lois laïques, hein, autour des années 1880 et jusqu'à la loi de 1905, qui est un peu l'aboutissement de ce processus. Après, dans le discours de la collégienne, enfin dans les mots qui sont lus par la collégienne, il y a la référence à 1792, et donc il y a aussi cette idée du patriotisme républicain, puisqu'on est en 1870 après une défaite militaire qui va bouleverser bien évidemment le cadre institutionnel de la France, puisqu'on passe du Second Empire à la Troisième République. Et puis naturellement, il faut pas oublier, et ça a été quand même dans le discours un peu du président de la République, la dimension république sociale, puisque après 1870, il y a mai 1871 et la Commune de Paris, et donc la Troisième République, elle naît aussi dans sa dimension, je dirais, de revendication sociale à travers les ouvriers parisiens.
Et conflictuel, puisque les communards n'étaient pas forcément en empathie avec la Troisième République. En tout cas, ils ne la soutenaient pas forcément vu ce qu'ils...
Mais ils étaient patriotes.
Ils étaient patriotes. Alors, on parlera du patriotisme républicain un peu plus tard, si vous le voulez bien, mais je voulais finir ce premier tour de table et à toute fin utile aussi rappeler aux éditeurs que la République est proclamée le 4 septembre, mais que les trois lois constitutionnelles, elles, datent de 1875. Donc peut-être que dans 5 ans, on aura encore une commémoration de la Troisième République. Saber Mansouri, pour terminer ce tour de table sur cette naissance de la Troisième République, choisie en effet, comme le rappelait Chloé Gaboriau, comme moment fondateur.
Oui, après le lieu, le Panthéon, je pense que c'est symbolique, mais moi, j'aimerais dire quand même autre chose, c'est qu'en écoutant et relisant le discours d'Emmanuel Macron, j'ai eu une première réaction d'ailleurs, semblable à celle de Socrate écoutant Périclès faire l'éloge d'Athènes et de la démocratie à l'Assemblée du peuple. Et je me dis, mais quand même, quelle jouissance d'être français, quel pied d'être français. Et puis, dans un autre moment, je me suis dit quand même, oui, d'accord, un discours est écrit pour être dit à voix haute et être agréable à l'oreille. Et donc, il est dans son rôle tout à fait. Mais moi, ce que je ne comprends pas au fond, c'est cette volonté politique française qui revient à chaque quinquennat. Définir, redéfinir la République, la France, la nation, etc., etc. Raison pour laquelle j'ai écrit cet essai, La France est à refaire, une renaissance qui vient, et je pense m'inscrire dans la ligne de Georges Bernanos, qui, je cite, dans La révolte de l'esprit, je me suis toujours efforcé de comprendre mon pays, parce qu'on ne peut aimer sans comprendre. Je m'efforce de le comprendre et non de le définir, comme m'y invitaient jadis les politiciens de droite ou de gauche. Définir son pays est une entreprise assez flatteuse pour des intellectuels, parce qu'ils y trouvent un prétexte de plus à se définir eux-mêmes. Et je crois que cette volonté, je dirais, excessive de définir, immobilise les choses, et par conséquent, immobilise l'histoire de France, qui doit être lue comme une histoire en mouvement.
Alors que le Gabory en a en plein dans votre champ de recherche, celui des mots, du langage, du politique, et la mobilisation du thème de la République qui conserve, on l'entend, Saber Mansouri disait, quand on entend le président de la République, il y a une sorte de jouissance aussi à l'entendre, pour en tout cas, si on adhère d'une certaine façon à ce qu'il est en train de dire, il y a toujours une puissance rhétorique finalement de ce thème de la République.
Sans doute, hein, sinon les politiques de tous bords d'ailleurs aujourd'hui ne se précipiteraient pas pour faire l'éloge de la République. Et ça fait un petit moment que cet éloge est assez flou. Alors ce qui était intéressant dans ce discours, c'est que le flou a été levé en partie, il me semble, même si il est à de nombreux égards très contradictoire. Hein. Moi j'ai eu plutôt ce sentiment-là en l'écoutant.
Qu'est-ce qui vous a semblé contradictoire dans le discours du président de la République ?
Il commence par une série d'ouvertures sur les valeurs fondamentales de la République, la façon dont elles permettent d'accueillir tout le monde. Et aussitôt, il y a un mouvement de fermeture qui s'exprime dans une exigence d'adhésion très forte des citoyens à certaines valeurs et en particulier à l'idée qu'il faut assumer toute l'histoire de France. Et cette exigence, elle est énorme. Elle est en partie contradictoire puisque la République française, elle s'est construite tout au long du 19e contre la monarchie. Donc nous expliquer que adhérer à la République, c'est adhérer à toute l'histoire de France, y compris au sacre des rois à Reims.
Il citait Marc Bloch. Question de...
Oui, mais on est quand même dans une configuration où du coup le sens donné à République est quand même très très large. Et surtout, il est accompagné d'une exigence d'adhésion tellement forte qu'on peut se poser la question de savoir ce qu'il reste d'un des droits les plus fondamentaux des citoyens, qui consiste à faire usage de leur esprit critique, de leur raison, pour justement remettre en question des statuts, des aspects de l'histoire de France, des événements. Et c'est ça qui était, pour moi, un peu contradictoire avec le début du discours.
Avec le début du discours d'Emmanuel Macron. Alors, justement, voilà. Je vous propose de l'écouter avant de faire réagir ici en studio Didier Lesky et Saber Mansouri, puisque le président de la République a manié l'anaphore, hein, qui est devenu évidemment, et qui a toujours été d'ailleurs, un élément de rhétorique important. La République c'est, mais il nous a aussi expliqué être français, c'est.
Être français n'est jamais seulement une identité. C'est une citoyenneté. Ce sont des droits qui vont avec, mais ce sont aussi ses devoirs, c'est-à-dire l'adhésion à ses valeurs, à une histoire, à une langue, à une exigence qui tient la République debout car elle dépend de chacune et chacun d'entre nous à chaque instant. C'est un combat chaque jour recommencé. Alors ensemble, formons cette France unie qui peut tout vaincre. Et parce que, avec leur force d'âme, certaines et certains rejoignent aujourd'hui la République et que vous aurez à en reprendre le flambeau, alors avec confiance, oui, nous pourrons continuer encore longtemps de dire « Vive la République, vive la France ».
Et voilà la conclusion du discours du président de la République au Panthéon hier, Didier Leschi. Vous vouliez réagir à ce que disait Chloé Gaborio sur peut-être cette contradiction qu'elle soulevait dans le discours, c'est-à-dire une ouverture au début et ensuite une sorte de fermeture. On l'entend là, voilà, être français, c'est figé.
Oui, on peut le lire comme ça. Je crois que c'est important de comprendre que la rhétorique républicaine, bien évidemment, peut être polysémique, mais ce qu'il faut en prendre, c'est l'idée de l'égalité de tous et des citoyens, avec tout ce passage sur le fait que être français, c'est pouvoir participer d'une communauté de citoyens qui débat, et donc l'importance de la langue française. Et c'est du reste quelque chose qui est au cœur aujourd'hui des politiques d'intégration. Parce que on ne peut participer pleinement en tant que citoyen que si on arrive à débattre avec les autres. C'est ça qui est important. Et je pense que dans l'histoire du renouveau de la thématique républicaine, puisque, comme disait Madame Gaborio, on a vu cette renaissance. Je pense que le moment important, c'est au début des années 80. C'est Jean-Pierre Chevènement qui abandonne la perspective socialiste.
Avez été proche à l'époque de Jean-Pierre Chevènement.
Je suis toujours, du reste. Mais qui va changer le nom de son mouvement pour socialisme et république avec, corpus idéologique, celui de Claude Nicolet, qui sort en 1982, un livre important, L'idée républicaine en France, avec cette idée qu'on est dans une phase de régression du point de vue des espérances anciennes et d'émancipation sociale, et que le point à partir duquel on peut s'adosser pour essayer de résister à la vague libérale, c'est la République. Et au début, il faut se souvenir que Jean-Pierre Chevènement est regardé un peu comme une sorte d'archaïsme, d'archaïque, on lui reproche tout ça. Et puis aujourd'hui, et c'est vrai, c'est assez notable, tout le monde reprend le terme et y met un peu ce qu'il veut. Certains sont des républicains absolument conservateurs et qui ne pensent pas du tout à l'idée d'émancipation et à la référence à la Révolution française, et puis d'autres, je crois, continuent à penser que c'est un moyen de lutter contre les discriminations, contre l'inégalité sociale, et ce qui est important, c'est que le mot de Jaurès a été cité dans le discours du président de la République, avec cette idée de République sociale. Alors, on peut voir les rois de France, mais il faut, je crois, pour ceux qui sont attachés à l'idée de l'émancipation, y voir Jaurès.
Saverne Montsouris, le président de la République a choisi de présider, en même temps que ce discours, une cérémonie de naturalisation. C'est naturalisé qu'il s'adresse quand il dit « vous aurez à reprendre le flambeau ». Affirmer d'abord que la République, la citoyenneté sont une démarche, c'était un peu au cœur de ce discours, mais aussi que la France est riche de son immigration. On voit une sorte de retour du « en même temps » un petit peu dans ce discours. Oui, comment vous l'avez entendu, Saverne Montsouris?
Je pense qu'indépendamment de son point de vue, devenir français est un désir. Moi, je l'ai désiré, je l'ai obtenu. Après, je pense qu'il faut bien mettre les choses en place. Pour moi, un président de la République n'est pas historien, n'écrit pas l'histoire. Un président de la République gouverne. Et donc, on reviendra peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce que gouverner ? C'est dire ou faire. Donc, moi, j'estime que c'est quand même faire les choses. Et puis, s'agissant de la contradiction dont parlait
Chloé Gaborio,
c'est cette contradiction entre une demeure politique commune, qui est la République, qui est un régime qui serait idéal, et puis, dans le même discours, la question du séparatisme, de la séparation. Donc, c'est-à-dire que, au fond, cette République n'est pas, en tout cas, la demeure de tout le monde. Et il a cité aussi la République sociale, Peggy et tout, mais je ne sais pas si... je pense qu'il connaît ces mots à Peggy, mais je vais quand même le citer, c'est pas trop long. On prouve, on démontre aujourd'hui la République. Quand elle était vivante, on ne la prouvait pas. On la vivait. Quand un régime se démontre aisément, commodément, victorieusement, c'est qu'il est creux, c'est qu'il est par terre. Un régime qui est debout, qui tient, qui est vivant, n'est pas une thèse.
les mots de Peggy cités in extenso par Saber Mansouri, Chloé Gaborio. Alors, peut-être que si la République est redevenue un terrain d'affrontement politique et idéologique depuis, en effet, le rappelait Didier Lesky, les années 80, avec ce retour de la culture républicaine, ce qu'on appelait le retour de la culture républicaine. Et jusqu'à aujourd'hui, encore très très récemment, on a vu que Marine Le Pen avait, donc du Rassemblement National, avait posté une vidéo pour griller la politesse à Emmanuel Macron dès jeudi soir. Avant cela, l'UMP a choisi de devenir Les Républicains, ça a également fait grincer un certain nombre de dents. Le mouvement, le Printemps Républicain, qui a été fondé en 2016 contre, je cite, les défaiseurs identitaires. Bref, on voit que cet affrontement politique et idéologique se joue depuis un certain temps, et il s'est cristallisé peut-être autour de la question des identités. C'est ce que vient de rappeler Saber Mansouri avec la question dont il faudra dire un mot tout de suite, de la question du séparatisme.
Je ne suis pas sûre, en fait, qu'il se soit cristallisé sur cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que cette question, alors du séparatisme, je trouve vraiment le mot très fort, mais ou du communautarisme, c'était peut-être le mot qu'on employait encore il y a quelques années, effectivement, réactive chez un certain nombre d'acteurs politiques la référence républicaine. Ce qui est très compliqué à comprendre, c'est ce qu'ils mettent sous l'unité républicaine et ce qu'ils mettent sous ce séparatisme. Est-ce que la République, c'est un certain nombre de valeurs que les citoyens doivent absolument rejoindre, défendre, et il faut les prendre comme un bloc, et donc on ne peut pas choisir entre plusieurs valeurs? Ou est-ce que la République, et c'est le choix du républicanisme critique qui manifestement n'est pas celui du président de la République, c'est la liberté justement de choisir ses valeurs, ses propres valeurs, dans le respect de celles d'autrui? Et c'est là où je parlais en fait de fermeture dans le discours, puisque une République ouverte, c'est aussi une République où on peut choisir son mode de vie, on peut choisir ses valeurs, à condition de respecter celles des autres. Et pour ça, ce choix-là, il implique une forme d'égalisation, une égalité qui n'est pas simplement devant la loi, mais une égalité qui est aussi matérielle, sociale, réelle, qui permette à chacun d'exercer cette liberté et de l'exercer également, que certains ne soient pas plus libres que d'autres grâce à leurs moyens financiers ou à leur réseau de sociabilité, par exemple.
Didier Lesky.
Sur la question des valeurs, je ne sais pas s'il y a l'idée qu'il faut absolument adhérer à un bloc particulièrement défini, mais je crois qu'il faut adhérer.
Ah bah le terme de bloc a été employé plusieurs fois par le président de la République.
Absolument,
la République est un bloc, la laïcité est un bloc, la liberté est un bloc.
C'est le mot traditionnel. Voilà, la révolution est un bloc. Hein, c'était ça aussi qui était derrière cette référence historique. Mais je crois que ce qui est important, puisque la question que vous l'avez posée à partir du séparatisme, c'est le fait qu'il faut maintenir cette idée qu'il faut une égalité à la fois de tous et le respect de tous, et qu'il n'y ait pas de sentiment chez certains de subir une contrainte. Et il a parlé de courants religieux qui, à un moment donné, peuvent exercer des contraintes sur un tel ou un tel pour l'empêcher de faire ou pour l'obliger à faire. Voilà, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre les valeurs. Après, on peut discuter à l'infini et de ce qu'il dit ou ce qui n'est pas dit, mais dès lors qu'il dit que c'est le droit au blasphème, que c'est partie de l'âme essentielle de la France, c'est-à-dire l'esprit critique, l'idée de la citoyenneté, de la raison, il a fait référence aux Lumières, on peut chipoter, mais je crois que ce qui est important, c'est d'en regarder le côté positif.
C'est vraiment souri.
Pour moi, l'unique bien commun, c'est vraiment la question de la citoyenneté. Ce qui est au-delà, c'est autre chose. Et une république qui gouvernerait les âmes et les cœurs, attention. Donc, voilà.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, couleur rose à des reflets bleus.
D'une anaphore, l'autre, Alain Bachung, évidemment, résident de la République, pour illustrer cette émission ce soir du temps de débat du samedi avec nos invités Didier Lesky qui est haut fonctionnaire, Saber Mansouri qui est écrivain, historien, et Claude Gaborio, politiste. Une émission au cours de laquelle nous nous demandons pourquoi la République doit-elle toujours réinventer la citoyenneté. On le fait évidemment à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration, de la proclamation de la Troisième République, célébrée lors d'un discours notamment du président Emmanuel Macron au Panthéon. C'était hier vendredi. Alors en exergue de votre livre coécrit avec Régis Debré, Didier Lesky, ce livre sur la laïcité au quotidien, vous avez cette citation. Messieurs, vous êtes d'accord avec le mot, êtes-vous d'accord avec la chose? C'est signé un républicain. Alors, je semble que c'est plutôt question de la laïcité, mais j'ai l'impression que c'est presque une question qu'on pourrait poser sur la République aussi.
Mais bien sûr, on peut la poser sur la République, parce que c'est pas nouveau, d'une certaine manière, que des personnalités, des hommes politiques utilisent le mot République en y mettant des choses qui sont contraires à l'élan sur lequel s'adosse l'idée républicaine, pour nous, qui est quand même la Révolution française. Hein. Je pense, par exemple, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le colonel Delaroque, qui pouvait utiliser le mot République, mais qui a soutenu Pétain jusqu'en 1944-45, hein, et donc qui a soutenu les fossoyeurs de la République. Donc, il y a l'idée, et vous l'avez dit, qu'il faut réinventer, mais je crois que c'est pas tant la citoyenneté qui est à réinventer, c'est la République elle-même en tant que à la horizon d'attente et chose en acte, c'est-à-dire qui passe par l'égalité, on peut dire réelle, entre les citoyens, encore que le mot d'égalité réelle, vous savez, il a une histoire dans le mouvement socialiste, enfin, qui est ambigu, puisque il était avancé pour ne pas parler de l'égalité juridique, on parlait d'égalité sociale réelle, etc. Mais bien évidemment, c'est l'idée de l'égalité dans tous les domaines qui est en jeu, le droit au travail, le droit au logement, le droit d'être libre dans ses choix personnels et de ne pas être sous la contrainte. C'est pour ça que, d'une certaine manière, moi, je liais cette naissance de la Troisième République à la Commune de Paris, c'est-à-dire que ça reste quelque chose de conflictuel, et il faut que dans cette conflictualité, ceux qui sont porteurs de l'idée d'émancipation et adossés à l'idée des Lumières, eh bien, soient plus forts que ceux, et vous avez cité Marine Le Pen, qui sont en réalité foncièrement contre cet héritage.
Ça va, on sourit dans votre essai « La France est à refaire ». Vous regrettez une sorte de rendez-vous manqué de la République avec ses promesses. Et vous n'êtes pas le seul à faire, notamment ses promesses dans ce qui ont été ces colonies ou le département qu'a constitué l'Algérie française à son époque. Et vous dites, voilà, il aurait fallu faire une sorte de caracalla. Enfin, il aurait fallu donner la citoyenneté française et ça aurait peut-être changé la face du monde, la face de la France.
Oui, c'est l'esprit politique qui englobe, qui embrasse, qui est plus, je crois, qui est plus intéressant, plus solide que le son des canons. Et au fond, on parle tous de la Troisième République. La Troisième République n'est pas une déesse politique parfaite. Il y a ses travers aussi, parce qu'elle est bâtie sur l'exclusion. C'est la question de qui a été l'octroi de la citoyenneté française aux musulmans d'Algérie jusqu'à une date récente. Moi, j'ai en tête un traité de droit, je crois, des années 20, où il est écrit « Il est peut-être dangereux de faire citoyen d'une nation un individu dont le cœur est ailleurs ». Et encore une fois, le gouvernement du cœur, j'ai beau lire, relire les philosophes qui se sont penchés sur la question de la cité et de la citoyenneté, non, c'est une perspective, je dirais, terrifiante. Après, peut-être, il ne s'agit pas de définir le citoyen. Sans doute, le grand chantier, c'est de redonner sa part de souveraineté aux citoyens.
Joël Gabory.
Par une forme de démocratie directe, locale, enfin j'en sais rien. Mais...
Je crois que ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, pardon, excusez-moi, c'est justement ne pas oublier que dans la période de lutte anticoloniale, les révolutionnaires ou ceux qui luttaient pour l'indépendance, ils s'appuient sur l'idée républicaine. On prend un personnage comme Messaliage, et bien ils disent c'est au nom de vos idéaux que je réclame la liberté. Ho Chi Minh, par exemple, il y a de très beaux textes où il dit la révolution française c'est ça, et pourquoi vous me refusez à moi l'indépendance, le droit à ma souveraineté, à faire ce que j'ai envie de faire.
Oui, ça a été très bien étudié par un autre historien, Pierre-Jean Louisard, vers qui je renvoie nos auditeurs. Pardon, Claude Gaborio, je rappelle que vous êtes en duplex depuis Lyon, alors c'est un peu le jeu, malheureusement, quand on est en duplex, il est plus difficile de se faire entendre, mais je vous donne la parole tout de suite pour réagir à ce qui vient d'être dit.
Merci beaucoup. Non, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que la République, c'est d'abord une citoyenneté active et donc une forme de participation importante. En tout cas, c'est celle que défendent les radicaux contre Ferry, puis Gambetta, quand il se rallie à la République modérée. Et ce qui est étonnant, en fait, je ne sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas, ce qui est frappant dans le discours du président de la République, c'est que cette participation du peuple n'apparaît absolument pas. En revanche, il y a tout un développement sur le combat républicain, la République en mode défensif, en quelque sorte. Il faut la défendre, il faut combattre ses adversaires. Et ça m'a fait penser à un passage du livre de Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français, qui est très intéressant sur cette question, qui dit, à propos des débuts de la Troisième République, à force de se consacrer à la lutte anticléricale, donc contre le cléricalisme, la République, l'État républicain s'identifie avec une société civile sécularisée et du coup ne pense plus l'autonomie de cette société civile, sa participation, son potentiel critique à l'égard des politiques qui sont menées. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans ce texte où on a le sentiment, par exemple, qu'il faut une adhésion absolue aux élus. Alors, soumission à la loi du scrutin, évidemment. Mais que veut dire cette soumission? Est-ce que ça signifie qu'ensuite, on n'a plus droit à la critique? Est-ce que ça signifie que l'opposition doit être bâillonnée? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de possibilité d'utiliser des outils de démocratie directe? Il y a là une sorte d'angle mort dans ce texte qui me paraît gênante.
La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste. Un projet de loi de lutte contre le séparatisme sera à cette fin présenté dès cet automne. La fraternité. Être français, c'est voir en son compatriote plus qu'un semblable, un des siens. Notre nation a ceci de singulier qu'elle a développé un État-providence, un modèle de protection sociale qui ne laisse personne au bord du chemin. Or, ce système unique au monde ne tient que par les liens toujours fragiles qui unissent nos concitoyens. Liens du respect et de la civilité qu'à tout moment la violence et la haine peuvent briser. C'est pour cela qu'en République, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les maires, les élus de la République, plus largement toutes celles et ceux qui luttent contre la violence, contre le racisme et l'antisémitisme, jouent un rôle déterminant et que par symétrie, ceux qui s'en prennent à eux doivent être lourdement condamnés. Force à la loi, jamais à l'arbitraire. Ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux élus, ne passeront pas.
Voilà les mots du président de la République pour illustrer ce que vient de dire Claude Gaborio et Didier Leschi. C'est vrai qu'on a vu ces derniers temps, je le disais tout à l'heure, et peut-être qu'il faut en discuter un petit peu si vous le voulez bien, la question de la République est intimement liée depuis certains temps avec celle de l'identité et de l'immigration. On l'entend dans cette question du séparatisme notamment, et ce balancier qu'a fait en permanence le président de la République entre le droit, les devoirs, l'intégration et en même temps les devoirs qu'on vient de l'entendre encore face à ceux ou celles qui incarnent au quotidien la République.
Je suis pas sûr qu'il faille lier cette question du séparatisme comme ça d'emblée à l'immigration. Et du reste, le fait que tout ça se place dans une cérémonie où, de remise des décrets de naturalisation à des personnes qui justement ont immigré prouve que ce n'est pas exactement, et même dans la symbolique, quelque chose qui est complètement rattaché. Il y a plusieurs formes de communautarisme qui existent et qui ne posent pas de problème en soi. La question qui est posée, je pense que l'évolution sémantique est importante et à mes yeux positive, c'est de dire qu'il peut y avoir des fractions qui, pour des raisons idéologiques de la population ou de groupe, décident pas simplement de se couper des autres, mais en leur sein, de faire pression sur leur groupe et de mettre vraiment les autres à distance. Et je dis cela parce que le président dit la République c'est fragile, mais en réalité notre monde tel que nous vivons nous, républicains, avec une histoire qui a une très longue durée de bataille autour d'acquis sociaux, eh bien elle est confrontée à son entour, à des sociétés, à des politiques qui veulent remettre en cause tout ça et qui peuvent idéologiquement irriguer au-delà de nos frontières, enfin je veux dire des parties de la population. Et c'est par exemple un des problèmes à partir des dérives de l'islam, mais il peut y avoir d'autres types de dérives où on a cette volonté de ne pas accepter la loi commune au sens où elle est élaborée dans une instance collective à partir d'un fonctionnement démocratique. Alors maintenant, est-ce que la loi est juste ou pas? Elle n'est pas forcément toujours juste. Il ne faut pas oublier que les républicains, c'est aussi le droit de contester les lois, hein, jusqu'à la légitimité parfois de l'émeute, puisque c'est ça aussi la tradition révolutionnaire française.
Écoutez, moi, sincèrement, quand j'entends séparatisme, grand remplacement, je me dis pourquoi dans ce pays.
Le grand remplacement n'a pas été prononcé par le président de la République.
Non, mais par ailleurs, pour moi, c'est un mot, enfin, c'est véritablement, le deux mots, il y a un écho entre les deux mots, il y a comme une filiation. Je me dis pourquoi dans ce pays, on a perdu le sens des mots. Séparatisme, je suis désolé, mais j'ai envie de dire, si je reprends le mot à mon compte, je vous dirais que le séparatisme a été acté d'emblée par des pouvoirs publics. Pendant le rapprochement familial, voilà, on a parqué des gens entre eux, loin de Paris, en banlieue, qu'on appelle paradoxalement les cités, alors que mes ancêtres, les Grecs, diraient qu'il n'y a qu'une seule cité, c'est Athènes, il n'y a qu'une seule cité, c'est la République. Et puis, je pense aux imams qui ne maîtrisent ni leur Coran, ni la langue de Bossuet. Ce sont quand même Jox et Pasqua qui ont fait appel à des imams de l'étranger. Hein. Ce ne sont pas des...
Donc un ministre de l'Intérieur de gauche et un ministre de l'Intérieur
donc, il faut dire la vérité. Et puis, vous savez, je me suis, dont la France est à refaire, je me suis intéressé à la marche des beurs. Que dans le roman, je les appelle d'ailleurs les marcheurs authentiques, les moustachus audacieux. Voilà des hommes, des femmes qui ont marché pour l'égalité et contre le racisme. Et quand rien que cette histoire récente des années 80 jusqu'à aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'on a raté pour que les propres enfants de France aillent participer à une guerre qui n'est pas la leur, que ce soit en Syrie ou en Irak. Qu'est-ce qui fait que plusieurs djihadistes partent d'une petite ville pour passer par la Turquie, pour rejoindre la Syrie, et participer encore une fois à une guerre qui n'est pas la leur?
Non mais on a le droit de participer à une guerre dès lors que on a le sentiment qu'elle est juste. Et les brigades internationales pendant la République espagnole, avec des jeunes et en particulier qui partent de France pour aller rejoindre les combattants républicains, je pense que c'est juste. La question, c'est de savoir pourquoi on part et au nom de quelle idéologie. Et c'est ça le vrai problème. Et cette difficulté, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, c'est que la marche des beurs, enfin, qu'on l'appelle maintenant comme ça, ils faisaient des cahiers de doléances. Et donc, justement, ils essayaient d'adosser leurs revendications sur l'histoire de la France dans ce qu'elle a de meilleur. Voilà. Et elle n'a pas été, effectivement, entendue comme cela aurait dû l'être. Mais la difficulté que nous avons, et vous avez parlé des imams, j'ai beaucoup travaillé, enfin j'étais pendant 4 ans chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, donc je vois bien quelle critique que je partage en réalité vous faites, c'est qu'elle est basée sur le fait que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire il y avait cette idée que les personnes avaient le droit de prier avec quelqu'un qui puisse guider leurs prières et qu'ils reconnaissent. Et comme on ne les avait pas en France, on les a fait venir et on continue du reste à les faire venir de pays étrangers. Et là, on commence à rentrer dans du séparatisme. Par exemple, on a un problème réel avec la Turquie qui a un volant de fonctionnaires qui s'y viennent, encadrent les mosquées d'obédience turque, y rajoutent des écoles confessionnelles, etc. Et le font dans un cadre juridique qui permet cela parce que la République reconnaît la possibilité pour chacun d'exercer son culte et reconnaît aussi pour d'autres et pas simplement pour les musulmans le droit d'avoir des établissements privés à caractère propre.
Le Gaborio, ce thème de la République menacée, alors vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé du communautarisme au séparatisme, mais finalement on désigne toujours un petit peu la même chose. C'est un thème qui n'est pas nouveau, mais est-ce qu'il a pris récemment, selon vous, une autre forme, une importance nouvelle ?
Ben, moi, je suis toujours un petit peu suspicieuse hein, quand j'entends des questions de défense républicaine ou de la République comme forteresse, parce que il y a toujours le risque de se trouver des ennemis intérieurs. C'est une vraie question que d'entendre ce discours qui est à la fois très rassembleur et en même temps, c'est le cas de le dire, désignant des adversaires.
Les fascistes peuvent être des ennemis intérieurs.
Sur le mode du combat, avec un impératif de rassemblement qui me semble assez exorbitant et qui fait très peu de place finalement à la liberté du débat, à la liberté du désaccord, à la liberté de la critique. Si on reprend, par exemple, j'étais très touchée de ce qu'a dit Saber Mansouri sur la question des mots, en fait, parce qu'on a un problème qui va au-delà d'Emmanuel Macron aujourd'hui, je trouve, c'est que le discours politique est dilué dans des mots qui ont perdu leur sens et qui, du coup, permettent finalement de dire tout et son contraire dans le même discours, ce qui est source de confusion, évidemment. Et là, quand je lis, par exemple, dans ce discours que la police républicaine doit lutter contre le racisme, ce dont tout le monde peut convenir, mais que ensuite, s'en prendre à la police, c'est remettre en cause, du coup, cette lutte contre le racisme et la défense des idéaux républicains, j'ai plein de questions. Qu'est-ce que ça signifie s'en prendre à la police ? Ça signifie s'en prendre physiquement à la police ou ça signifie critiquer la police ? Autrement dit, dans le contexte actuel, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on, selon Emmanuel Macron, on sort du cadre républicain quand on fait état de faits de racisme dans la police ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut critiquer les institutions, leur fonctionnement ? Et être néanmoins, de son point de vue, républicain. Il me semble que oui, il me semble que c'est salutaire. Et si dans le même passage, on rapproche racisme et police et qu'on ne fait pas du tout allusion au contexte qui est le nôtre, hein, et qui est celui des États-Unis, eh bien voilà, on a cette interrogation qui reste à l'issue de son discours. Quid de la liberté de la critique, quid de la liberté de l'opposition, du débat, du désaccord.
Alors on va finir là-dessus, si vous voulez bien, il reste quelques minutes, Didier Lesquie et Saber Mansouri, peut-être en rattachant tout ça à la question du patriotisme républicain. C'est parfois ce qu'on a pu reprocher au patriotisme, je pense à la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, le patriotisme devait empêcher toute forme de critique, et en tout cas de parole dissidente à ce moment-là. Alors il y a peut-être une volonté du président de la République de rattacher, d'éloigner le patriotisme de la nation pour le rapprocher de la République. C'est peut-être ça qu'il essaye probablement de faire avec cette expression. Mais par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à cette idée de patriotisme républicain, vous vouliez réagir tous les deux, Saber Mansouri?
Écoutez, en temps de paix, le seul patriotisme que je peux avoir, c'est véritablement avoir une haute opinion du pays dans lequel je vis. Et donc, une haute opinion du citoyen, indépendamment de sa religion.
Mais qui est liée aussi à son histoire. Je veux dire, parce que je pense que c'est ça qui est reproché aussi, notamment par Claude Gaboriau, mais par d'autres, au président de la République et à son discours, c'est d'avoir une forme de sacralisation de l'histoire de France, de sacralisation de cette République qui empêcherait toute forme. C'est-à-dire que la haute opinion n'empêche pas la critique.
Mais de toute façon, pour apaiser les mémoires, il va falloir que cette histoire s'assume, et sans doute, en fait, ça viendra sans doute par l'enseignement de plusieurs histoires. Et je dirais un mot sur justement ces imams qui officient en banlieue, qui ne connaissent ni la langue du Coran, encore une fois, ni la langue française. Je me dis peut-être aussi que le pouvoir public en laissait faire, parce qu'il y a cette idée qui vient de loin, du 19e siècle, et qui consiste à dire, après tout, ces musulmans sont ingouvernables par les lois de la République. Eh bien, on va les laisser se gouverner entre eux par la religion. Je pense qu'il y a cet acquis-là, j'en suis même persuadé, il y a cet héritage-là, et c'est malheureux.
Didier Lesquie.
Écoutez, sur les imams, il faudrait quasiment
une émission.
C'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir, et c'est légitime, un attachement au pays d'origine, et il n'est pas en soi critiquable.
Sur le patriotisme républicain.
Et sur le patriotisme républicain, bien évidemment, il y a une bataille autour des mots, du sens des mots et de ce qu'on met derrière. Et il ne s'agit pas d'être patriote pour être patriote. Il faut savoir exactement ce qu'on défend à travers le patriotisme. Et la question des symboles est importante, c'est-à-dire que on a eu tendance à un moment donné à laisser des mots, des symboles à une partie du champ politique qui fondamentalement était hostile dans sa tradition historique aux acquis de la Révolution française. Et je dis cela parce que je pense à la fois aux travaux de Régis Debray, mais aussi à quelqu'un qui a écrit un livre, et à l'époque, quand il est sorti, ça avait beaucoup surpris ses amis. C'est Daniel Ben Saïd qui sort un livre qui s'appelle « Jeanne de Garlas » et qui, justement, explique qu'on ne peut pas laisser comme ça Jeanne d'Arc être dévoyée comme figure.
Daniel Ben Saïd, figure de la gauche,
philosophe. Grand intellectuel et par ailleurs un militant un des fondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire, et qu'on ne peut pas laisser ce type de symbole aux autres parce qu'ils le dévoient. Et c'est pareil pour le mot république. Il ne faut pas laisser la république à ceux qui veulent en dévoyer le contenu émancipateur.
En un mot, Saber Mansouri.
Juste pour préciser que, nuancer, l'attachement à une culture d'origine n'entre jamais en conflit avec l'attachement à une culture française. C'est-à-dire, l'un n'annule pas l'autre. Et je dirais même, peut-être cette Renaissance française viendrait de ces Français qui viennent d'ailleurs parce qu'ils ont une distance critique qui leur permet de penser les choses dans le calme.
Et bien, vous nous en avez donné un exemple ce soir. Merci beaucoup, Saber Mansouri, Didier Lesquie, Chloé Gaboriau. On mettra évidemment toutes les références de vos ouvrages et les liens vers les articles que vous avez pu publier sur la page du Temps du Débat du samedi. À la prise de son ce soir, c'était Valérie Lavalard. À la réalisation, Vanessa Nadjar. Merci à Seam Boutata, la collaboratrice de l'émission. Lundi, dans le Temps du Débat, quels sont les freins à l'indépendance de la justice? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités, Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord, Christiane Ferralschul, qui est avocate, et Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature. Tout de suite, dans quelques instants, Hervé Gardette pour Politique. Très bon week-end à l'écoute de France Culture.